J'ai choisi de vous parler de repentance, mais pas de façon larmoyante, mais montrer de quelle façon, dans l'Écriture, mais à travers l'histoire de l'Église aussi, la repentance, si c'est à la fois, ça peut paraître, à première vue, un moment difficile, un moment de mise en lumière, donc de honte, de gêne, d'humiliation, c'est toujours en vue d'une joie qui vient, en vue d'une restauration, en vue d'une guérison, en vue de quelque chose de mieux. Toute personne qui appartient vraiment à Jésus-Christ aspire profondément à toujours plus de Jésus-Christ dans sa vie. Ça apparaît évident. Qui d'entre nous qui appartenons à Jésus-Christ n'avons pas cette aspiration à la sainteté, à plus de victoires sur des affaires qui traînent dans nos vies, avoir une proximité avec le Seigneur qui soit encore meilleure, plus de temps consacré à ça. Écoutez, un croyant est né de nouveau à cette d'aspiration qui ne produit même pas lui-même, elle est tout simplement là. Je suis toujours inquiet pour des gens qui ont zéro aspiration, spirituellement parlant, j'entends, là, qui ont... Des fois, ça arrive, je jase avec des gens à mon bureau, puis... Qu'est-ce que tu voudrais qu'il t'arrive, là, tu sais? Je sais pas. Il y a pas... Parce qu'on peut être né dans une famille de gens nés de nouveau et ne pas l'être soi-même et avoir simplement grandi dans cette culture chrétienne. On a adopté les manières, les mots, les croyances. On a adopté ça. Ça fait partie, c'est chez nous. C'est notre famille. C'est la famille de notre famille. C'est nos habitudes, c'est nos traditions. Et en même temps, ça peut être complètement étranger de nous. Et ça, c'est fascinant. Malheureusement, fascinant dans le mauvais sens. J'avais demandé à une jeune femme, il n'y a pas tellement longtemps, peut-être une couple d'années, qui comme ça, songeait à abandonner l'Église. Et puis, à un moment donné, je lui dis, Jésus-Christ, elle voulait me rencontrer pour en parler, mais je lui ai posé juste une question simple. Jésus-Christ, là, pour toi, ça évoque quoi au juste? Puis là, je dis, répète-moi pas le par cœur que tu connais depuis l'école du dimanche, parce que j'aime pas avoir une réponse que les gens pensent que je veux entendre. Ça, c'est pas une vraie réponse. Je voulais qu'elle me dise, toi, là, honnêtement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Jésus-Christ? Puis elle me dit, honnêtement, rien. Donc, toutes ces années n'ont pas produit rien. C'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de sa famille, c'est pas de notre faute, c'est comme ça. J'aurais pas dit ça il y a 25 ans quand je commençais mon pastorat, mais aujourd'hui, j'ai trop rencontré de gens, de situations. Et de la même façon, j'ai connu des gens qui ont tombé creux et bas, là, bas, en bas, de en bas, là, tu sais. Dans la folie, dans la bêtise, dont un qui me disait un jour, en prison, ce que j'ai fait mérite les pires châtiments. J'ai jeté ma Bible aux poubelles parce que c'est pas digne d'un chrétien, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Puis il dit, j'ai un problème, c'est qu'après avoir jeté ma Bible, je me suis rendu compte que quand je me couchais le soir, il était là, Jésus. Quand je me réveillais la nuit, il est encore là. Quand je me réveille le matin, il est encore là. Fait qu'il dit, je n'ai pas été capable de me débarrasser de lui. Fait qu'il s'est retrouvé une Bible. Puis il a marché avec Dieu là-bas. Merveilleux, non? Ça nous échappe, hein? Tout ça, là, c'est... On n'a pas besoin de l'expliquer, mais on a peut-être besoin de l'entendre. Donc, s'il devait y avoir un mouvement de repentance, soit dit en passant, j'aimerais attirer votre attention ceux qui veulent prendre ce moment au sérieux, c'est-à-dire ce jeûne du mois d'août sérieux, j'aimerais vous demander de lire le livre des Proverbes en continu d'ici là. Le livre des Proverbes. S'il y a un livre éclairant sur notre condition humaine devant Dieu, c'est bien ce livre-là qui nous parle de toutes nos folies, nos rébellions, nos résistances. Tout est là. Livre des Proverbes. Donc, si je devais entrer dans une démarche de repentance, je vous pose une question. Qu'est-ce que devrait être l'élément qui devrait m'éclairer pour me dire ce dont je devrais me repentir? Donc, c'est quoi la matrice de ma repentance, selon vous? La Bible, oui, plus précis. J'entends passer. La loi. Si on a à se repentir, il faut que notre repentir soit le reflet d'une déclaration qui dit quelque chose de vrai par rapport au mensonge dans lequel je suis probablement. Qu'est-ce qui me dit que je vais trop vite si un policier m'arrête sur la route? Le policier se fait le porte-parole de quelque chose, mais il se fait le porte-parole de la loi. C'est la loi qui m'interdit, en fonction d'informations données sur les limites de vitesse, que j'ai outrepassé la limite. C'est la loi qui est l'indicateur. Et ça pose des questionnements, parce qu'on a l'impression, on dit, oui, mais attends une minute, nous autres, les chrétiens, on dit qu'on n'est pas sous la loi. On est sous la grâce. Ça laisse entendre que la grâce, pour beaucoup, malheureusement, la grâce, c'est une bonté de Dieu, mais qui est comme, c'est comme un gros vide. Ça te pardonne, ça te lave, ça te purifie. Puis c'est comme si ça n'a rien. Il n'y avait pas de substance en soi, c'est juste bon. Mais c'est bon. La loi reste inséparable de la grâce en réalité. La grâce fait une œuvre qui suit l'œuvre de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, sous le rapport de la justification. C'est vrai. On ne peut pas être justifié, pardonné, lavé, purifié par l'accomplissement de la loi. C'est impossible. La loi n'a même pas été donnée pour cette raison-là. La loi, c'est même pas une façon d'essayer d'atteindre Dieu, de devenir juste devant lui, puis comme si Dieu disait, je vous ai donné ça, mais finalement, je me rends compte, en tout cas, moi puis le Fils, bon, Saint-Esprit s'est mêlé à la discussion, puis on s'est dit, je pense qu'on est allé trop fort un peu. Fait qu'on va faire grâce à la place. Ou Dieu aurait dit, écoutez, je m'excuse, ce soir-là que j'ai sorti la loi, je suis en colère. Le peuple d'Israël m'avait poussé à la bout. Parce que si vous lisez l'histoire, comment la loi est donnée dans le livre de l'Exode, ça va mal. Là. Il y a le veau d'or, tu sais, le peuple là, est en train de s'égarer complètement, puis il y a une colère là, quand la loi est présentée. Fait que c'est comme nous, dans notre conception, tu sais, quand on se met en colère, on va toujours un petit peu trop loin, peut-être. Même peut-être pas. On va souvent trop loin. Donc, est-ce que Dieu, lui, a donné ces commandements-là, sa loi, ses 10 commandements, 613 préceptes et lois? Il y en a beaucoup, là. Et Dieu disait, je suis en colère ce soir-là, fait que on calme ça, puis maintenant, c'est la grâce. Puis c'est quoi la grâce? Ben c'est rien, c'est correct. Vous êtes cool, vous êtes pardonné, lavé, purifié. Mais non, pas du tout. La loi est parfaitement pure et parfaitement juste. Elle a été donnée pour montrer la nature de notre transgression. Sans loi, il n'y a pas de connaissance du péché. Il y a une intuition du péché. Si vous roulez sur une route où il n'y a pas de panneau qui vous montre une limite de vitesse, est-ce que ça vous donne le droit d'aller à 250 km/h? Ça ne vous l'interdit pas. mais ce n'est pas certain que vous allez sortir vivant. Même si la loi n'est pas donnée, il y a des évidences. Mais Dieu a montré, a donné la loi pour amener une connaissance précise, spécifique et dogmatique de ce que c'est les standards de Dieu. C'est précis. C'est comme speed limit, sa vitesse, c'est 100 km/h. C'est 100. C'est 100. C'est précis. Dans Romains 3, 20, il est écrit « Car nul ne sera justifié par lui, par les œuvres de la loi. » C'est important de comprendre. Nul homme ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, Paul établit clairement en partant que la loi n'a pas été donnée comme un moyen pour devenir juste devant Dieu. Donc, elle a été donnée pourquoi d'abord? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est un magnifique verset qui dit beaucoup, beaucoup de choses. La loi a été donnée pour qu'on nous soit donné la connaissance du péché, que ça précise le fait. Donc, si jamais j'ai à me repentir, c'est pas ma conscience qui doit être visitée. Parce qu'il se peut que ma conscience soit contaminée par toutes sortes d'éléments de croyances qui sont de nature culturelle, on va en parler tout à l'heure, et que ma conscience soit plus ou moins en bonne santé. J'ai souvent cette discussion-là avec des gens, ça me fait souvent étrange d'entendre. Personne ne va avoir une conduite qui est tout à fait à l'opposé de l'Écriture, mais c'est ça qu'elle va supposer. Oui, mais ma conscience ne m'accuse pas. Mais ta conscience n'a pas besoin de t'accuser. C'est la loi qui t'accuse. Il faut aller voir la loi. Si tu ne vas pas voir la loi, tu vas juste voir ta conscience, tu vas voir ce qui te séduit déjà. Ce n'est pas la mesure. Je ne suis pas la mesure de ma repentance. Ce n'est pas mes convictions à moi. Ce n'est pas mes valeurs à moi. Ce n'est pas les valeurs de ce monde qui peuvent être la base, le fondement, la matrice d'une quelconque repentance. Ça doit être la loi. Donc, est-ce qu'on est sous la loi? Non, mais est-ce que la loi éclaire toujours? Oui. La loi est toujours un éclairage qui nous rappelle les exigences de Dieu. Donc, si on est coupable par rapport à ça. Fascinant. Et bien qu'on n'est pas appelé à l'accomplir. Donc, s'il y a quelque chose en nous qui aspire à plus, on est dans une étrange dualité, nous les croyants, parce que on aspire à quelque chose et en même temps, on ne l'atteint jamais. Et c'est comme ça. Mais c'est comme ça voulu de Dieu. Si on tombe, on va se relever parce qu'on aspire à plus. Et on va se relever, on va probablement retomber, mais on va se relever. Combien de fois, disait Jésus, ça peut arriver? Pas mal de fois. Mais on va persévérer à se relever continuellement, continuellement. Mais le danger, c'est de dire, bon, je tombe tellement souvent que je ne me relève plus. Donc, si on tombe dans une grâce qui n'accomplit plus l'objectif que Dieu nous avait donné de se relever par cette grâce-là. Donc, on est probablement aujourd'hui, je pense, dans la fin d'un cycle. On va parler un peu de culture, de réveil, de ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est fascinant. Ça mériterait même d'être étudié un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il y a des cycles. C'était vrai pour Israël dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Dieu intervient, va donner sa parole. Et puis, ça va créer une réforme, un réveil, une mise en ordre. Les gens se mettent d'aplomb, puis on tasse les affaires qu'on n'a pas besoin. Puis là, il y a une crainte qui s'empare du peuple, et là, ça décolle. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ça ramollit, tranquillement. C'est toujours comme ça. C'est normal. On disait, le traité pêcheur fait qu'on contamine la révélation, on vient y mettre toutes sortes, on ajoute plein de patentes à travers ça, puis ça devient un contenu plus ou moins clair. Et Dieu intervient souvent par un nouveau réveil, une nouvelle visite, réveille à nouveau son peuple, et c'est jamais définitif, jamais. Donc, vous le voyez en Israël, on va le voir, on va lire deux, trois textes là-dessus, c'est fascinant. Et dans l'histoire de l'Église, il s'est produit à peu près la même chose. Au cours des trois derniers siècles, à peu près, on dénombre à peu près 6 réveils majeurs chez les chrétiens. En 1723, il y en a eu un. Et c'est davantage dans les pays anglophones que ça s'est produit, chez les protestants en général. Et à toutes les fois, c'est un retour à l'Écriture. C'est une repentance, donc. Se repentir, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'Écriture. Donc, il y a forcément, dans une repentance, un retour à la révélation première. Et dans l'histoire de l'Église, c'est la même chose. Ça éveille, les gens se mettent en ordre, les mariages se remettent à fonctionner, les familles, c'est d'aplomb, l'éducation chrétienne revient, des institutions. Vous savez qu'aux États-Unis, suite au réveil de 1732, celui de 1732 à 1742 de Jonathan Edwards, je vais vous citer un texte intéressant là-dessus tout à l'heure, il y a pas moins de 7-8 universités qui ont été créées, dont Princeton. C'est incroyable. L'état de ces réveils-là, ça a tellement réveillé solide les gens. Imaginez, ça a ouvert des institutions qui existent encore aujourd'hui, qui sont devenues complètement païennes aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait des moments où Dieu réintervient. Il est gracieux, il dit « OK, il va aller, je fais OK ». Et Dieu, quand tu fais un réveil, c'est un vrai réveil, ça fait peur. Enlevez de vos têtes qu'un réveil, c'est du cantique, puis c'est un Alléluia party. Ça, c'est pas la même. Il y en a qui voient ça de même. Ça arrive, les affaires de même, mais un réveil, c'est pas ça. Un réveil, un vrai réveil, on est saisi de crainte. C'est ça qui se passe. J'ai eu la chance de jaser avec M. John Alexander, écrit beaucoup de livres, et nous, on l'avait fait venir dans les années 80 et 90, deux fois qu'on l'a fait venir. M. John Alexander débarque ici. Un dimanche soir, je suis assis avec lui, je ne suis pas tout seul, il y avait d'autres, et j'avais entendu dire que son père, à lui, était à Glasgow en 1904. Qu'est-ce qui s'est passé à Glasgow en 1904? Un réveil. 100 000 conversions. 100 000 conversions. Et moi, je me suis dit, il me semble que c'est rare qu'on peut parler à quelqu'un qui, de sa famille à lui, à quelqu'un qui était là. Moi, je ne connais personne qui était là au réveil de Jonathan Edwards à Northampton, 732. On peut juste lire, mais parler à quelqu'un. Et là, M. Alexander avait raconté, son père lui a raconté que un certain soir, il est allé là avec des amis, il disait, il se passe quelque chose, on va aller. Ils sont allés dans une église, il y a eu une prédication. Il dit, c'est pas compliqué, il dit, les gens pleuraient, les gens se tenaient près des chaises, des bancs, près des colonnes. Puis il dit, le plus étonnant, c'est qu'on entendait des gens confesser à haute voix leurs péchés alors que personne ne leur demandait de le faire, là. C'était spontané, puis il disait, les gens, des vols, des meurtres, des adultères, il disait ça à voix haute, et aucune retenue, là. C'était fascinant, l'effet que ça avait. Là, on n'est plus dans une manipulation humaine, ici. Là. On est dans Dieu visite son peuple. Et il n'y a pas personne qui a chanté de cantique ce soir-là. La crainte s'est emparée d'eux. Et c'est dans les semaines qui viennent après, la grâce de Dieu. Parce que Dieu révèle à la fois la folie, la perdition du cœur humain aux gens, les croyants, d'abord. Et ensuite, il répand sa grâce, restauration. Et là, les cantiques décollent. Les plus beaux cantiques sont souvent écrits dans les mois, les années qui suivent les grands réveils. Des cantiques brillants, intelligents. Vraiment, c'est du solide. Tournez dans Juges, chapitre 2. Je vous disais alors qu'un des problèmes qu'on a, c'est que la culture ambiante, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'à un moment donné, on s'alourdit, puis qu'on a besoin d'être comme de repentance et d'une visite de Dieu? La culture ambiante dans laquelle les croyants, nous, vivons, la culture vient teinter de plus en plus notre compréhension de l'Écriture, au point où il en vient que la culture gouverne davantage nos vies que l'Écriture gouverne nos vies. C'est toujours le même problème. La culture ambiante gouverne nos vies et moins l'Écriture. Si je m'expose à la culture, aux arts, aux pensées, aux philosophies, à la musique, au cinéma, au téléroman, name it, de ce monde, tant d'heures par semaine, bien, ce temps d'heures-là dans la semaine s'imprime dans mon cerveau. Si en rapport, en comparaison de ça, j'entends le pasteur lire 3-4 versets le dimanche à l'église, bien, devinez ce qui va avoir le plus d'influence sur ma pensée, c'est la culture. D'ailleurs, si vous voulez faire une expérience, elle est facile à faire, pendant une semaine, fermez tout ce qui est télévision, ordi, à moins que ce soit pour le travail, là. Puis à la place, prenez du temps dans la parole, dans des livres. Faites comme un jeûne de tout ça, de culture de ce monde pendant une semaine. Au bout d'une semaine, vous ne pensez plus pareil. Le problème avec la culture, elle agit un peu sur nos vies comme du bisphénol A, mon exemple idéal. Le bisphénol A, c'est une matière très petite, qu'on retrouve dans les sacs de plastique, puis les plats en plastique. Tout ce qui est en plastique contient des bisphénols A. C'est une matière qu'on dit cancérigène. Le problème, c'est que ça ne se vend pas en poudre. Il n'y a personne qui peut manger ça à cuillère du bisphénol A. Vous n'en trouverez pas. Mais tout ce qui touche à des contenants plastifiés, ramasse quelques brindilles de bisphénol A, spécialement si vous faites chauffer votre aliment dans du plastique, c'est encore pire. Ça le dégage, la chaleur là, en met plus dans votre bouffe. Donc, pendant des années et des années et des années et des années, vous bouffez du bisphénol A et malgré que vous le sachiez ou pas, ça agit pareil. Ça ne vous demande pas la permission pour vous rendre malade. Ça n'a pas besoin de votre libre arbitre, cette affaire-là. Ça vous contamine tranquillement, 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 tranquillement. C'est un peu de la même façon que la culture agit sur nos vies. Elle nous contamine, et à un moment donné, on ne réfléchit plus. Notre marche avec Dieu à travers l'Écriture, c'est la culture qui vient teinter notre compréhension. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on finit... Là, je me souhaite une phrase complètement étrange, avec des mots qui n'existent pas, c'est pas grave. C'est juste pour rire. Donc, on finit qu'on politise l'Évangile, on écologise l'Évangile, on philosophise l'Évangile, on psychologise l'Évangile, on féminise l'Évangile, on syndicalise l'Évangile, on homosexualise l'Évangile. Bref, on humanise l'Évangile au point où chacun de nous le remaquille selon l'inclinaison de son propre péché. Vous avez ça en ce moment? Des églises avec toutes sortes d'étiquettes bizarres qui n'ont rien à voir avec l'Écriture, mais ça a l'air que c'est correct. C'est fascinant. Les mœurs culturelles du siècle présent envahissent notre entendement qui doucement adopte par syncrétisme les valeurs de ce monde, les valeurs ambiantes de ce monde. Donc, par syncrétisme, par fusion. Donc, un peu de ceci, un peu de cela. Toutes ces matières-là deviennent une espèce de bouillabaisse. Puis, il y a de l'Écriture là-dedans. Mélange ça, puis ça bâtit mes convictions. Dans Juges, chapitre 2, verset 10, est écrit « Toute cette génération fut recueillie auprès des pères, de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ainsi de suite. Vous savez, si vous connaissez le livre de des Juges, vous savez que ce livre-là suit l'épopée grandiose de Josué. Donc, c'est intéressant de juste étudier l'Écriture en fonction des générations. Vous avez celle qui a sorti d'Égypte sous la guidance de Moïse. Cette génération-là n'a pas plu à l'Éternel. Pourquoi? Parce que les autres, on les a sortis d'Égypte, mais l'Égypte est restée dans leur cœur. Fait qu'ils se sont plaints jour et nuit pendant 40 ans. Puis Dieu a juré dans sa colère, ils n'entreront point dans mon repos. Mais leurs fils et filles à eux, c'est l'autre génération d'après, la gang à Josué. Josué était plus vieux qu'eux, et Caleb aussi, mais il y a toute une génération de gens qui ont dit, nous, on le prend le défi, on veut sortir du désert, conquérir le pays de Canaan. Ils l'ont fait. Les autres ont vécu des grandes choses avec le Seigneur, ils ont vu Dieu faire des délivrances, ils ont vu les murs de Jéricho tomber, c'est phénoménal. L'autre génération, leurs enfants, c'est cette gang-ci, là. Ça, c'est l'autre génération qu'eux autres arrivent dans du tout cuit. Il n'y a plus rien à conquérir, on est installé. C'est pareil comme aujourd'hui. Tu sais, Pasteur Jeff aime ça nous dire, arrêtons de penser que c'est du monde spécial, c'est du vrai, vrai monde comme nous autres, avec les mêmes genres d'émotions, les mêmes paresses aux mêmes places. Donc, eux autres, ils ont commencé à trouver que Baal, c'est pas si pire que ça, finalement. Il ne faut pas le voir comme si, du jour au lendemain, ils ont dit, il y a l'Éternel, il y a Baal, son ennemi, c'est intéressant, on va aller vers son ennemi. Ça se passe toujours par syncrétisme. C'est des bisphénols A, tout le temps. Ça rentre tranquillement. Quand vous lisez l'épopée du veau d'or, c'est une autre histoire. Ils ont construit un veau d'or, par exemple, ça c'est longtemps avant. Et ils ne disent pas « Nous adorons notre Dieu », ils ont dit « Ça, c'est l'Éternel, notre Dieu ». Fait qu'on finit par avoir une image de l'Éternel, notre Dieu, une image autre que l'Écriture nous révèle de lui. Et cette fois-ci, c'est pas un mot d'art, c'est Baal. Pourquoi? Parce que l'Écriture, la loi, avait pris un recul, elle est plus présente. Si l'Écriture n'est pas très présente dans nos vies, ben, n'importe quoi ressemble à Dieu. Des bonnes affaires ressemblent à Dieu. Et là, on dit, peut-être. C'est pour ça qu'on écologise Dieu, on le politise, on lui donne toutes sortes de couleurs parce que c'est intéressant, ça se mélange un peu. Et là, je ne suis pas en train de dire que, comme vous croyez, on ne peut pas avoir d'opinion sur l'écologie, sur la politique, la psychologie, la philosophie. C'est pas qu'on ne peut pas connaître, savoir, utiliser même. C'est juste qu'on doit se demander dans quelle mesure ces éléments de culture et de savoir sont venus teinter ma compréhension d'Écriture. En d'autres mots, est-ce que c'est ces choses-là qui éclairent pour moi l'Écriture ou ça ne devrait pas plutôt être continuellement l'Écriture qui m'éclaire sur ces choses-là? Est-ce que l'Écriture doit éclairer la culture ou les cultures doivent venir éclairer mon Écriture? 2 Rois, chapitre 22, une autre histoire pittoresque. Dans 2 Rois 22, ici on est avant l'exil, ça serait long compter qu'à un moment donné, le peuple d'Israël a été déporté en Babylonie pendant 70 années, mais qu'avant, Dieu avait averti son peuple à travers les prophètes. Et qu'à un moment donné, il y a un roi, un homme qui plaît à Dieu, s'appelle le roi Josias. Lui envoie son secrétaire personnel, qui s'appelle Shaphan, j'espère que ça se prononce de même. Il l'envoie vers le souverain sacrificateur, qui est Ilkija. Et il va lui dire, il dit, va voir le souverain sacrificateur, puis dis-lui qu'il faudrait peut-être restaurer le temple qui commence à être un peu tout croche. Il y a de l'argent dans le temple, des dons qui ont été faits pour ça. Donc, tu sais, c'est une opération administrative tout à fait classique. Va vérifier ça. Fait que Shaphan, il part, va voir le Kija, puis il dit, hey, ouais, c'est ça, le roi demande de vérifier les coffres. Bon, peux-tu réparer les affaires? Puis, fait qu'il dit, OK. Alors, verset 8, chapitre 22. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ah ben tiens! Moi, quand je dis cette histoire-là, je dis, ben, il faisait quoi comme rituel? C'était plus le livre de la loi, il ne l'avait plus. Il faisait de la religion, de la tradition, du bisphénol, plein d'affaires. Alors, il est surpris, il dit, ben oui, on a trouvé un livre dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre. Écoutez, le sacrificateur n'a pas l'air de savoir que le livre existe, ça se peut-tu? Je ne sais pas, là, je vous dis ça vite de même, c'est fascinant. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, ils l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison d'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. » Je ne sais pas si vous entendez, c'est pittoresque la façon qu'il se fait. On a un livre. Ah, on a un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Tu sais, on a l'impression qu'ils ne connaissent ni le livre, ni ce que ça dit. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, donc c'est la loi. Je vous disais alors, qu'est-ce qu'il faut pour se repentir? C'est quoi le référent? C'est la loi. Donc, lorsque le roi entendit la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija et à Akijam, fils de Shaphan, Abkar, fils de Miché, excusez ma prononciation des mots hébreux, pas très fort. À Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel. Wow! Hein? C'est incroyable! On a un livre. Ben, gardons, toi. On a un livre qui nous parle de l'Éternel qu'on servait. Parce que c'est pas qu'ils ne savent pas que l'Éternel n'existe pas, parce qu'ils disaient qu'ils le servaient déjà. Ils allaient le consulter, on sait qu'il est là. Mais on ne savait pas qu'il y avait un livre qui nous racontait ce qu'il pense. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. C'est intéressant, non? Vraiment. Un peu plus loin, ça c'est avant l'exil, mais après l'exil, il y a eu un autre passe encore. Ça c'est dans Néhémie 8 et 9. Tournez pas, je vous lis ça vite. Donc peut-être un siècle plus tard, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et le lévite, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » C'est un autre épisode, c'est pas le même que Josias. C'est répété dans l'Écriture. Ça semble être comme ça. C'est pas grave, mais c'est béni. Donc, eh bien, ce que je suis en train de vouloir peut-être vous dire, pas peut-être, je pense que je suis vraiment en train de vous dire ça, c'est qu'on arrive, c'est une intuition, j'ai l'impression qu'on arrive, nous aussi, au bout d'un cycle. Pas sûr, mais je pense. Et si on veut organiser une semaine de jeûne, c'est comme ça on avait envie, comme Église, comme communauté, d'aller voir Dieu avec ça. Si on posait la question dans notre Église, pourtant une Église qui s'intéresse beaucoup à l'Écriture, si on connaît même la citation du texte où est écrite la loi, combien serait capable de répondre à cette question? Ce serait peut-être gênant. On a culturisé l'écriture. On en a fait un truc complètement étrange dans notre génération. Vraiment. Je reviens sur Jonathan Edwards. C'était le même genre d'intuition à son époque. Lui est pasteur en 1730 à Northampton. C'est pas très loin d'ici, aux États-Unis, dans le Massachusetts. Et toute son histoire commence autour de la question de la Sainte-Seine. D'ailleurs, en septembre, on va amener de l'instruction sur la Sainte-Seine. On veut ramener un peu plus de substance et de sérieux dans notre façon de le faire. Mais lui aussi, lui se rendait compte que tout le monde prenait la Sainte-Seine sans distinguer rien. Des gens sauvés, pas sauvés, des gens qui venaient pour des commandes, vipendants. Tout le monde prenait la Sainte-Seine. Puis lui, il s'est dit, mais c'est pas normal. La Sainte-Seine, c'est réservé à des gens qui ont professé Jésus-Christ officiellement comme Seigneur et Sauveur et qui ont une vie qui s'accorde avec leur profession de foi. On ne parle pas de perfection, là. On est complètement faible. Si un gars qui croyait ça, c'est bien Jonathan Edwards. Lui, c'est un calviniste, strong calviniste qu'on dit, mais à la fois, c'est un homme qui avait énormément de rigueur. Il croyait que on est aspiré à toujours plus de marche avec Dieu, mais il dit on est complètement tout le temps égaré. Mais bon, je pense toute sa pensée là-dessus. Mais lui, s'est farci une grosse chicane, une grosse tension avec des gens autour de lui sur cette question-là. Il se disait, non, il me semble que l'Écriture là, elle nous demande d'avoir un peu plus de rigueur. Et tout ça a développé une réflexion qui fait qu'il s'est mis à prier. Lui, s'est mis à prier, notamment, il voyait plein de jeunes dans son église. Ils ont dit, ils ont vraiment pas l'air de connaître le Seigneur. Parce qu'ils connaissent le Seigneur, ils ne se conduiraient pas de même. Ils ne parleraient pas de même, ils ne s'arrangeraient pas de même, puis ils ne se tiendraient pas où ils se tiennent. Quand tu connais le Seigneur, il y a un discernement qui s'installe. Il y a un renouvellement de l'intelligence que la parole produit qui fait que ce n'est pas juste des lois qui te disent quoi faire, quoi pas faire. Ta conscience est renouvelée complètement. Quand tu es dans une place que tu ne devrais pas être, c'est comme si tu le sais. C'est une évidence. Mais quand toutes les évidences sont perdues, qu'on les sent plus, qu'on sent plus rien, c'est que là, ça va pas bien. Et lui, s'il met à intercéder pour ça, puis en 1732, il y a eu comme une première vague de conversion dans son église, qui n'était pas le fruit d'aucune forme de légalisme, mais il a senti une rigueur se produire. Et 10 ans plus tard, ça a déclenché un immense réveil. Partout dans l'Est des États-Unis. En fait, les États-Unis n'existaient pas encore. C'était les 13 colonies de l'Amérique du Nord britannique à l'époque. Et ce réveil-là s'est propulsé jusqu'en Angleterre, puis ça a touché plein de zones anglo-saxonnes. Réveil merveilleux. Mais voici ce qu'on décrit de ce qui se passait. Pour Jonathan Edwards de Northampton, Jonathan Edwards de Northampton comprit progressivement que le danger venait de la confusion qu'il y avait entre l'Église et le monde. L'Église, en perdant contact avec les réalités spirituelles, devenait amorphe et insensible aux appels de Dieu. Le libéralisme doctrinal et le relâchement des mœurs en étaient les premières conséquences. Ce que ça avait pour effet, c'est que les croyants ne voyaient plus clair, ne distinguaient plus entre la volonté de Dieu et la pas-volonté de Dieu. Vous savez, je vous prendrai l'exemple de l'histoire de Mike Ward, qui a encore ressorti cette semaine. Et je trouve ça fascinant que des croyants ne comprennent pas la situation. Que Mike Ward est un parfait imbécile et un moqueur qui mérite ce qui arrive. Pour une raison. Ma réflexion sur Mike Ward, c'est pas ce que je pense de Mike Ward, c'est pas la question de la liberté d'expression. C'est le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. S'il y avait des croyants assis dans une salle de spectacle où Mike Ward a dit les imbécilités qu'il a dit contre le jeune Jérémie. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? ça se répète pas ici, tellement que c'est d'une vulgarité énorme. C'est pas juste de petits bashing là, en disant il est pas beau, il est... Je peux pas vous répéter ça. J'aurais dû vous amener le texte, vous le mettre à l'écran, j'aurais pas osé le lire devant vous, tellement que c'est d'une vulgarité sans nom. S'il y avait des croyants dans cette salle-là qui se sont pas levés pour partir, ils sont tous aussi imbéciles que lui. On ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. On ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Si on s'assit en compagnie des moqueurs, c'est qu'on est peut-être devenu un moqueur. Qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, pas le moqueur. Celui qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite l'Écriture. Je vais terminer, il me reste 5 minutes, sur une idée vraiment, là je vous passe une partie de mes notes. Il y a toutes sortes de dimensions au péché, et ça peut être une réflexion que vous pouvez faire d'ici le 15 août. Il y a comme 3 dimensions, puis c'est pas découpé très bien. Il y en a peut-être 4, il y en a peut-être 8, pas grave, je vous en donne 3. Dans le péché ou les péchés, on a encore le droit de dire ça dans une église, péché. Il y a le genre de péché qui peut être tellement grave, évident, hors de notre contrôle, que celui-là, il nous humilie en partant, puis on cherche de l'aide. Hein? Vous connaissez ces péchés-là? Il y a celui-là, cette zone de péché. Il y a une autre catégorie qui est ceux qui nous font honte, mais qu'on arrive à garder en dedans publiquement. C'est là. L'épaisseur de notre boîte crânienne arrive à ne pas laisser émaner cette folie. Ceux-là, on ne demande pas de l'aide nécessairement, mais on crie à Dieu. Ils sont évidents. Vraiment. Il y a la 3e catégorie. Ceux qu'on ne voit pas. Ils ne sont pas gênants parce qu'on ne les voit pas, on ne les sent pas. Lequel des 3 est le plus dangereux? Le 3e. Les 2 premiers, on est déjà en chemin, on est déjà humilié, on est déjà en train de crier à Dieu. Il y a déjà une démarche. Mais le 3e, c'est le plus dangereux parce que c'est celui dont on n'a pas conscience. Nos rébellions. C'est incroyable les rébellions qui nous habitent, mais on prend ça pour des droits. Les mécontentements, les murmures, tout ça, là. Les colères. Tout ce qui, dans nos vies, peut-être dans notre jeune temps, a détruit des choses dans nos vies, peut-être à cause d'éducation, le milieu familial. Écoutez, on est dans un monde de péché et de pécheurs, ça nous affecte, ça a affecté nos parents, donc on est affecté, on l'est. Et tout ça produit de la violence et de la colère. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on rend probablement la vie des gens autour de nous misérable, dans certains cas. Envers nos femmes, envers nos maris, envers nos enfants, envers nos amis, il se peut qu'on en vienne à faire le vide autour de nous. « Hey, je n'ai pas d'amis. Ils ne sont pas fins. Ils ne sont pas mes amis. » C'est peut-être toi qui n'es pas fin. Mais ça, tu ne le vois pas. Si vous entendez, je parlais, on peut être terrible envers nos maris, on peut être terrible envers nos femmes. Entendez-le pas pour vos maris ou vos femmes. Entendez-le pour vous-même. Ce que j'aimerais qu'on arrive à percer, c'est d'aller au bout, au fond de la méchanceté qui nous habite mais qu'on ne voit pas, qu'on refuse de voir, parce que c'est tellement plus facile d'accuser la méchanceté des autres qui se voient. Pour ne pas avoir à se regarder soi-même, on pointe continuellement la folie des autres. C'est tellement facile parce qu'on ne se trompe pas de raison. Calomnie, médisance. Lui, elle, il y a ci, il y a ça, garde-les, lui, garde-les. Tant qu'on pointe vers les autres, on manifeste qu'on est aveugle de sa condition, parce que lorsqu'on visite notre propre misère, il y a deux effets directs. Trois, la crainte s'empare de nous. La grâce qui nous restaure nous amène dans un deuxième effet qui est, comme Jonathan disait tout à l'heure, l'action de grâce. Et les frères et les sœurs qui ont des problèmes, c'est moins grave tout à coup. Tu sais, quand on est pris là, de honte de quelque chose, on dirait qu'on regarde les affaires des autres, on a envie d'encourager les gens à place, puis les édifier malgré qui ils sont. C'est pas grave, on va continuer, on va se relever, on va se donner une tape dans le dos plutôt d'une tape à l'arrière de la tête. On reconnaît un chrétien mature, non pas à l'excellence de ses connaissances, mais un croyant mature, c'est quelqu'un qui a complètement compris sa dépravation et qui, par le fait même, a complètement reçu la grâce que Dieu accorde à un pécheur. Ça calme tellement de folie en dedans de nous, cette affaire-là, puis ça nous garde dans cette attitude d'humilité. Chaque jour, notre péché là, se lève en disant, oh, Seigneur, c'est nous devant Dieu, c'est sa bonté pour nous qui nous relève continuellement. Ça calme nous, ça crée des démarches de pardon avec les gens. On se rend compte que à quel point on peut être aveuglé de nous-mêmes. C'est la grâce que j'espère que Dieu va nous accorder, parce que la repentance, ce n'est pas une question de sincérité d'abord, c'est une question de qui l'accorde et par rapport à quoi. Et c'est ce que je nous souhaite pendant cet été, cette période de jeûne, c'est qu'on puisse trouver la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir être mis en lumière, parce que c'est ça qui fait du bien, être mis en lumière. C'est ça qui délivre, c'est ça qui nous amène plus loin après. C'est ça qui nous fait découvrir nos appels, nos vocations, les amitiés, la communion fraternelle, qui nous fait découvrir tout ça, la mission. C'est de l'enrichissement par la suite, toujours. Amen. Merci, Père, de bénir abondamment ce matin ta parole. Et Seigneur, c'est mon cri devant toi ces temps-ci que tu ne nous laisses pas t'échapper, Seigneur, si facilement. Mais que tu nous conduises dans les sentiers, Seigneur, de ta parole, afin qu'elle puisse éclairer. Éclairer nos cœurs d'abord. Éclairer cette folie, cette misère qui nous habite et restaurer. Alors, merci, Père, de le faire, d'agir individuellement, parce qu'on a tous une vie personnelle, intime avec toi, mais que ce soit vrai aussi au niveau de l'Église, de la communauté, des choix qu'on fait comme dirigeants aussi. Si on a à se repentir, Seigneur, accorde-nous de le faire. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci.